on grandit par la conscience. Bon. Et c'est de l'ordre du devoir que pour un temps, ça se rattache chez nous à un système de croyances. Bon, ça sera, comme le disait Alain, une croyance provisoirement, apparemment meilleure, plus sûre, bon, à la limite. Hein. On n'a pas le choix. Moi, j'ai.
Moi, je pense qu'une croyance peut s'installer en nous aussi, quand il y aurait une douleur ou une souffrance trop forte, à assumer sur le moment, et que ça peut être provisoirement nécessaire.
Mais il n'y a plus à ce moment-là, moi, je ne sais pas, comme je dis à Raz-de-Marée, il n'y a plus de croyance, il n'y a plus rien, moi, c'est le contraire. J'aimerais en avoir une à ce moment-là, mais il n'y a plus rien.
Oui, oui.
Alors, où est le travail? Qu'est-ce que c'est que la vigilance à ce moment-là? Qu'est-ce que c'est que la conscience dans ces moments de Raz-de-Marée où on perd pied? Qu'est-ce que c'est? Moi, il n'y a plus de croyance, là.
Si, il y a une croyance, parce que il y a encore la croyance qu'il devrait y avoir quelque chose, que quelque chose devrait être là qui supprimerait cette douleur, qui supprimerait cette souffrance. Il y a encore une attente, il y a encore une revendication.
Oui, oui.
Je veux pas vivre ça.
Oui, ça c'est
je veux
vrai.
Pas, je veux
ça,
pas, je veux
vrai.
Pas.
Oui,
bon. Et là où l'enseignement nous oblige, c'est qu'il dit conscience.
Mais justement,
amener la conscience, amener l'intimité avec ça. On n'a pas d'autre choix.
C'est-à-dire l'acceptation dans ce
non, moment. On te demande pas d'accepter, tu ne peux pas accepter.
Non, je peux pas,
bah, évidemment. Et personne, si quelqu'un te demande d'accepter, tu t'en vas tout de suite. Il a rien compris.
Oui,
Et personne n'a jamais accepté. Personne. Dieu t'accepte, mais toi tu peux pas accepter. Tu as été construit sur le non. Tu ne peux, à un moment donné de ta vie de disciple, que coopérer avec le oui, c'est-à-dire écouter la voix du oui en toi. Et tu ne peux pas dire oui. Tu ne peux pas dire oui à ce à quoi tu as dit non. Quand on t'enseigne la pratique du oui, on te fait sentir qu'il faut dire oui avec le oui du monde. Mais pas de dire oui au monde, tu ne peux pas. Toute ta vie, c'est non à ça.
Bon.
Parce que c'est un péril pour toi. C'est l'autre et c'est un péril. Donc tu ne peux pas dire oui à ce qui te fait peur. Bon.
Mais justement, qu'est-ce que c'est là, le travail? C'est quoi dans ces moments de raz-de-marée? Quand on sombre, qu'est-ce que c'est?
Est-ce qu'on sombre vraiment à ce moment-là?
Je ne sais pas dire, je ne sais pas.
Ça fait penser à la sourdine qui s'accroche à sa branche.
Oui, mais c'est tout à fait ça, c'est sûr.
Il ne sombre pas vraiment, parce que
mais...
ils sont vrais.
Oui, tout à fait.
Poussez les images.
Mais c'est parce que je ne sais pas,
l'image.
Il faut aller autrement.
Oui, mais là, c'est là encore, bon, on peut sourire, mais quand on évoque une question comme ça, et c'est important entre nous, parce que nous sommes ici une assemblée de chercheurs. Bon, on doit garder le sens de l'humour tout en gardant le respect. Il y a bon, jamais un groupe de chercheurs ne peut vivre au sein de ceux qui le constituent des relations parfaites. On sait que ça n'existe pas, mais on se doit au moins je dirais le respect de ce que chacun vit. Si on n'a pas de respect pour ce que l'autre vit et énonce, c'est qu'on a le refus quelque part en soi et la peur de ces mêmes choses. Donc celui qui a vécu intimement des mécanismes qui sont évoqués comme ça, les respecte d'autant mieux qu'il a été en intimité avec ça et qui sait à quoi ça peut correspondre dans certains moments critiques du vécu. Ce qui n'empêche pas de garder une certaine dose d'humour à l'égard de ça. Bon, c'est salvateur. Mais c'est important aussi que, surtout entre nous, dans une assemblée de chercheurs, il y ait le respect, parce que c'est ce qui permet justement aussi que chacun puisse sortir sa problématique sans avoir le sentiment qu'il est jugé, qu'il est déplacé, que les autres sont beaucoup mieux, qu'il fait de la psychologie alors qu'ici ça relève de l'enseignement traditionnel. Non, tout ça fait partie de la voie. Bon. Et tu es bienvenu avec ce problème-là, comme chacun avec sa problématique. L'enseignement nous confronte avec ses souffrances, avec ses douleurs, et n'a pas la prétention de les résoudre, n'a pas la prétention de les guérir. C'est ce qui est d'autant plus dur, si on peut dire, et quand je disais une fois à Joël, la dernière fois à Moadi, il me disait, même pas dur, exigeant. Bon, en anglais, le mot est encore « it's demanding », ça demande de nous, ça oblige. Bon. L'enseignement ne permet pas, l'enseignement oblige. Bon. Il nous oblige à cette confrontation-là, à cette confrontation de ce qui est de plus dur, c'est l'effondrement de nos croyances, c'est l'effondrement. Bon. Mais on n'a pas le choix dans cette voie-là. Bon, on va vivre ça. Maintenant, il y a... pourquoi ça prend des années? Ça prend des années parce que il y a une façon d'apprivoiser le nom que l'on quitte. Dans Le Petit Prince, quand Léonard lui dit « apprivoise-moi hein? ». Bon, on doit apprivoiser. Quand je faisais travailler les gens corporellement, je disais quelquefois, tu t'en rappelleras, peut-être, je disais « écoutez votre corps comme on écouterait un enfant qui a été battu longtemps et à qui on demanderait de se confier ». Quand on a 20 ans ou 30 ans de mauvais traitements passifs, et ça demande de notre part une telle qualité d'écoute pour que ça puisse se confier, que ça puisse parler, pour apprivoiser ça. Comment un gourou apprivoise un élève ? Avant qu'un élève puisse s'ouvrir, se confier, laisser parler ce qui n'a jamais été dit, hein, et ben ça, il va falloir que tu le vives avec toi. Il va falloir que tu sombres avec toi. Et que tu apprivoises ça, que tu laisses parler ça. Mais en même temps, il y a effectivement quelque chose qui grandit. Tu peux être 100% éveillé, tu ne peux pas être 100% sombrant. Moi, je sais. Tu peux être 100% éveillé, tu peux pas être 100% ignorance. C'est pas possible. Parce que c'est la vie même qui te fait sombrer pour se retrouver. Et jamais le vivant, le réel, n'est éteint en toi. Il peut être occulté par des détournements d'intérêt personnel, mais il ne peut pas être éteint complètement. Et c'est parce qu'il ne peut pas être éteint complètement que dans ces moments où justement, par un travail approprié, il y a dénonciation du faux, mais où ça se fait en conscience, en lucidité mûre, que le pressentiment du réel grandit. Et ce pressentiment, vous le reconnaîtrez immédiatement au fait qu'il n'a pas d'objet. Parce que quand il grandit en vous, le monde entier le chante. Immédiatement. C'est pas quelque chose qui grandit là et que vous avez à l'intérieur de vous comme un bien précieux. C'est quand ça grandit là, le monde entier le chante, il est là partout. Ce pressentiment du réel, il ne peut pas être qu'en vous. Quand il grandit, tout s'allume. Et ça n'a pas d'objet. Ce n'est pas un objet de la conscience, c'est la conscience elle-même. Et elle se reconnaît dans tout ce qui est vu.
Que je l'apprivoise, ça, j'ai clairement senti, je crois, mais je suis pas plus avancée. Je sais que je revendique quand il sent ça.
Bien sûr.
Je sais bien aussi, mais bon, c'est tout.
J'ai dit quelquefois, et je sais pas si tu as eu l'occasion de l'entendre ici, mais le premier maître que j'ai rencontré, c'était Georges Grivas. C'était le guide du temple de Delphes en 69, et c'était un éveillé. C'était un grec et disciple d'un soufi turc, d'Ismaël Emre d'Adana. Et j'ai passé 2 jours avec lui, c'était le premier maître que je rencontrais sur la voie. Et quand je l'ai quitté, j'ai dit, donne-moi un viatique, donne-moi une parole qui m'accompagne dans mon chemin. Et il m'a dit, ne sois pas impatient, don't be impatient. Ensuite, j'ai passé quelque temps avec Guruji en Inde, quand je l'ai connu. Et puis après quelques temps, quelques années, quand j'ai vécu avec lui là-bas, que je suis rentré en Occident, j'ai demandé un viatique, une parole qui m'accompagnerait dans mon chemin. Mais dites-moi, bimpe jeune. Et puis après, j'ai rencontré M. Klein, avec qui j'ai vécu pendant presque un an. Et quand je l'ai quitté pour m'installer, j'ai dit en le quittant, est-ce que vous avez un viatique pour moi? Et dit donc, bimpe jeune. Et toi, ils m'ont dit la même chose. Hein, bon. Et c'est vrai que nous sommes dans le temps de la souffrance. Et le temps de la souffrance revendique et est impatient.
Je sais bien aussi.
Bon. Donc, il y a un travail de maturation. On doit coopérer à ce travail. Et il ne faut pas que ça arrive avant terme. Il y a tout un processus en nous qui doit permettre le véritable épanouissement du oui. Hein? Si on provoque trop les choses, si on s'impatiente trop, si on est à contre-temps. Le temps de la souffrance est à contre-temps du réel. Donc je vous propose une mi-temps. les leurs. Référence que ton expérience actuelle. Ton expérience actuelle, la sensation relève de l'ordre de la dualité. Oui. Il peut, et non seulement il peut, mais c'est la seule sensation réelle, c'est celle qui est non-duelle, où l'univers tout entier se vit dans ta propre sensation. Si, parce que ton corps participe. J'emploie le mot sensation. Oui, parce que le corps n'est pas laissé à l'écart de cette expérience de la réalité. Et c'est très important pour nous ici de l'entendre. Parce que nous, en tout cas beaucoup des personnes qui viennent écouter ces entretiens, fonctionnent cérébralement, fonctionnent aussi au niveau des sentiments, au niveau des sensations. Bon. Mais en tout cas, l'un des éléments qui est utilisé au cours de l'enseignement est l'intellect, la pensée, bon. Qui aurait tendance à désincarner un peu notre travail et à renforcer des attitudes au niveau de l'imaginaire, au niveau de la représentation. De la même façon, que lorsque vous vous trouvez dans un cadre où l'accent est mis sur le corporel, il y aurait là aussi une façon de trop matérialiser. De même qu'on peut trop cérébraliser par représentation, on peut aussi trop corporifier et matérialiser au travers d'un travail corporel. Avec une seule nuance. Quand cela s'énonce, cela ne cherche pas ni à expliquer, ni à convaincre, ni à faire comprendre.
Oui, mais
non. Oui, oui, cela s'énonce. Donc les mots employés restent des mots ouverts. Ce ne sont à aucun moment des mots qui ont la prétention de détenir le réel, de l'enfermer. Ils l'évoquent. Parce que on ne parle pas du réel, c'est le réel qui parle. C'est le réel qui s'énonce. Bon. Maintenant, pour que des mots non ouverts existent, il faut qu'ils aient jailli d'une conscience ouverte. C'est le réel qui énonce ces mots-là. Maintenant, pour qu'ils soient entendus, il faut que ce soit une conscience ouverte qui les écoute. Bon. Il est évident qu'à partir du moment où c'est une revendication, un intérêt personnel qui écoute ces mots, on va s'approprier ces mots et en faire autant de mots censés enfermer le réel et immédiatement rentrer dans le processus de la représentation personnelle. Avec le sentiment de bonheur lié au fait de « Ah, j'ai compris, ah, j'ai la réponse. Et puis qui va être mis en question, évidemment, une minute ou deux jours ou trois ans après. Donc, on ne peut pas être convaincu du fait que la sensation participe de la réalité, mais que ce soit au moins l'occasion de réhabiliter l'interdit de séjour dans le réel. Il y a tant d'occasions pour nous d'être interdit de séjour dans la réalité. Il y a ceux qui vont interdire de manger de la viande, ceux qui vont interdire de faire l'amour, ceux qui vont interdire d'aller au cinéma, ceux qui vont interdire et patati et patata. Bon. Alors, pourquoi n'accueillons-nous pas le fait justement qu'un interdit est levé? Le corps a non seulement droit de cité dans le réel, mais il est indispensable. S'il n'y a pas la présence de la sensation au sein de l'intuition du réel, ce n'est pas la réalité. L'éveil se vit totalement avec le corps aussi.
Je suis d'accord, mais cette sensation dont tu parles, tu n'en as pas conscience au moment où tu dis ça, c'est après que tu lui fais conscience. Sinon, il n'y a pas unité. Parce que tu aurais tout le problème.
C'est résumé d'un mot coopération.
Au moment où tu dis
coopération, ça résume.
Oui.
Est-ce qu'il y a perception de cette sensation?
Il n'y a que ça.
Tu es cette sensation.
À ce moment-là, il n'y a pas de dualité.
Non, c'est toi qui. C'est toi qui voulais que, puisqu'il y avait sensation, la dualité persiste.
Mais quand je suis dans un acte, quand je fais quelque chose,
oui.
Je ne suis pas là en train de percevoir ce quelque chose. Je fais ce quelque chose. C'est après que je dis, j'ai fait ce quelque chose. C'est-à-dire, je crée ma dualité.
Oui, mais.
Et au moment où j'ai fait mon acte, je suis dans l'oubli.
Non.
Où est-ce que je suis?
Dans l'oubli. L'oubli du réel.
Au moment où je fais l'acte.
Non, ça, avec tout le respect que j'ai pour toi, c'est du blabla védantique.
Non.
Hein? Il arrive un moment, et d'autant plus un être jouisseur comme toi, incarné comme toi, il arrive un moment... Ou, comme nous tous de toute façon, mais il a... D'un seul coup, enfin on a compris, Sam. Tout le monde était content. Et toi t'étais plus particulier, les autres n'étaient plus oubliés. Donc, il est important que le corps soit présent, qu'il est plus que le droit, il faut qu'il soit là. Seulement...
Oui,
bien sûr, mais c'est capital. Bon.
Mais ce que je veux dire, moi, c'est la sensation dont tu parles. On dirait que lorsque tu vis cette expérience, on dirait que tu sais que tu la vis. Ah, pour moi, il y a dualité à ce moment.
Non.
Voilà, c'est...
Nos expériences, en général, se déroulent soit de façon, je dirais, automatique, inconsciente, ou consciente, objectivement. J'en ai déjà un peu parlé avec toi la dernière fois lorsqu'on a décrit l'évolution de la conscience au travers du simple acte de la descente en avant dans une posture de travail corporel. Bon. Nous pouvons dire qu'effectivement, dans le moment où j'agis, où il y a action, je m'attribue l'autorship, le fait d'être l'auteur de cette action après. Au moment où je l'ai accompli, il n'y avait pas, apparemment, d'acteur dans cet instant-là conscient. Bon. Conscient de l'action. Mais il y a quelque chose de très très important, c'est de ne pas confondre un acte automatique inconscient qui relève de l'oubli du réel et un acte de conscience. Entre les deux, il y a effectivement le fait d'être conscient de ce que l'on fait. Et à ce moment-là, je dirais, on fait la chose consciemment, consciencieusement, éventuellement, mais on n'est pas l'acte conscient. Dans un premier temps, on est dans l'oubli. On n'est pas conscient de l'acte auquel on se livre à ce moment-là. Un premier travail nous oblige à la conscience, à être conscient de ce que l'on fait, de ce qui est. Mais cette conscience-là, elle est de elle, évidemment. Mais de se servir de l'expérience antérieure, de l'étape antérieure où il y a inconscience pour dire là est la réalité, c'est pas faux au niveau dialectique, mais c'est faux au niveau de l'expérience. Parce qu'au niveau de l'expérience, il n'y a pas présence. Dans l'acte éveillé, qui est être-agir, qui est conscience agissante, on n'est pas conscient de quelque chose, parce qu'on est tout ce qui arrive. Mais tout ce que nous sommes est conscience. Il n'y a pas un simple coin d'oubli là-dedans. C'est l'absolue présence de la conscience qui rend cet acte conscient, et non pas le fait d'en être conscient. À ce moment-là, l'acte est conscient parce que c'est la conscience qui agit. L'acte n'est pas conscient parce qu'on en est conscient. Bon, nous, notre expérience, c'est où l'inconscience, le pilote automatique, l'anesthésie générale, ce qui fait que bien souvent, apparemment, l'enseignement vous fait pas mal parce qu'il est fait sous anesthésie générale. Non. Mais où nous sommes dans cette inconscience-là, où nous amenons un peu de conscience dans l'acte auquel on se livre. Mais c'est évident que du point de vue de la réalité, l'acte auquel on se livre n'a rien à voir avec la réalité. Là, il y a un sujet conscient d'un objet qu'on appelle action ou autre. C'est complètement différent lorsque, je dirais, la toute conscience agit. La toute conscience ne peut pas être inconsciente, même lorsque l'action, c'est dormir. Tu es une balle de ping-pong pour l'instant. Tu es ballotté au gré de tes intérêts les plus immédiats. Tu es éparpillé par ton plus prochain bonheur. Là où se trouve ton plus prochain bonheur, là se situe le morceau de ton éparpillement présent. Et tu te situes de bon en bon dans le territoire de ses plus prochains bonheurs, de ses plus prochains plaisirs. Le fait de dire qu'à un moment il n'y avait pas d'auteur, il n'y avait pas d'acteur, il n'y avait qu'action, n'est jamais pour toi la possibilité d'un rappel du réel. Par contre, quand, et ça t'arrive, quand c'est la toute présence qui se reconnaît, quel que soit le contexte, que ce soit au sein d'une action ou de l'inaction, cette toute présence-là est vivifiante. Et elle se sait, mais elle ne se sait pas comme un objet. La toute présence est à elle-même l'évidence de son propre fait d'être. Et ça ne se discute pas, ça. Et c'est dans le corps. On ne peut pas vivre cela sans que le corps y participe. On peut s'abstraire dans des états, dans des extases, où le corps ne peut pas, d'une certaine façon, participer autrement qu'en étant le support qui permet à une autre partie de nous d'exister dans cette extase. Et après, on redescend dans ce corps avec le sentiment de prendre une limite par rapport à ce qui a été vécu extatiquement. Mais ça, c'est une extase. Et où le corps est vécu comme une limite contraignante parce que lui, dans sa limite, ne peut pas vivre cette extase-là. Et c'est pour en revenir à cette notion que j'évoquais tout à l'heure, où, parce que le corps a une limite et que nous projetons le réel comme illimité et que nous ne cernons pas de la même façon les limites de l'esprit, de l'intuition ou de la pensée de la même façon, que nous pensons le réel accessible exclusivement à l'intuition et pas au corps, parce que nous attribuons au corps une limite et à la réalité pas de limite, et que ce corps limité n'est pas censé pouvoir vivre l'illimité de la réalité, d'autant plus que nous associons à cette illimité de la réalité une expérience transcendante, cosmiquement joyeuse, avec un plaisir que le corps ne pourrait pas vivre, ne pourrait pas contenir, parce qu'il est beaucoup trop petit pour ça. C'est notre confusion, dès le départ, qui envisage la réalité dans l'illimité, qui nous fait interdire le corps de séjour dans le réel. Le réel, c'est la limite reconnue comme réalité. Et c'est pourquoi le mot gourou en sanskrit, son premier sens, c'est lourd, c'est poids. C'est le corps vivant, le corps total. Et s'il n'y a pas le poids du réel dans le corps de l'instructeur, il n'y a pas la réalité. Son corps en fait partie intégralement. Et en cela seulement, il a corporifié le réel, il a matérialisé le réel. Sinon, on a affaire à des états, à des expériences extatiques où, effectivement, il est nécessaire de quitter pour un temps une limite, mais c'est pour en endosser une autre, plus vaste, mais une autre. Où les limites du plaisir, elles sont repoussées de telle sorte que ce qu'on éprouve au sein de ces expériences-là est d'une jouissance extraordinaire, et que on se rend bien compte que le corps se désintégrerait s'il devait éprouver au-delà. Et on se dit à ce moment-là, alors le réel, si c'est l'illimité, ça doit être tellement que le corps ne peut pas vivre ça. Eh bien, pas du tout. Mais c'est le réel qui fait l'expérience de ton corps. On s'assied, on n'a pas mis les heures encore sur la porte. Oui, hein.